French Connection, épisode 43. Cette semaine, je suis avec Damien.
Bonjour tout le monde.
Et Vincent.
Salut.
Les autres ayant des obligations beaucoup plus importantes en ce printemps qui se fait plus clément qu'à l'habitude.
Ils sont partis et on va commencer. Saumon, oui.
Parce qu'il y a certaines zones du Québec, c'est plus chaud que d'autres. Cette semaine, on va commencer avec un spécial Black Market par Damien, dans lequel il y a trois nouvelles très importantes, dont une canadienne, sur lesquelles le Black Market nous affecte de façon assez importante.
Oui, tout à fait. C'est dans cette quinzaine, j'ai voulu qu'on aille faire un petit tour du côté du Black Market. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé, et je suis depuis maintenant quelques semaines, deux boutiques vraiment pas comme les autres. Alors la première, on en avait déjà parlé un tout petit peu il y a un mois ou deux, c'est un Black Market français. Alors d'abord, hein, pour rappel, Black Market, c'est quoi? C'est une boutique, c'est un Target, hein, c'est un Leclerc, un Auchan, un Carrefour, mais sauf que dedans, on n'y trouvera pas des fruits et des légumes, hein, on n'y trouvera pas de l'huile, on n'y trouvera pas des fleurs, non, on va y trouver des données soit volées, piratées. Alors, on connaît aussi les Black Market où on vend de la drogue, on en parlera tout à l'heure. Non, moi, ceux auxquels j'ai voulu me pencher, c'est plutôt ceux qui vendent clairement des internautes comme si c'était de la viande. Alors, je m'explique. Le premier, on en avait parlé donc, hein, ça concernait à l'époque, où on en parlait avec la French Connection, 500 000 Français. Alors, comment ça fonctionne? C'est que le pirate propose pour 2, 4 ou 6 euros, donc quasiment pareil hein, en dollars canadiens, d'acheter des lignes de log de Français avec leur nom, leur prénom, alors pour appâter le client. Hein, il met l'adresse mail en entière, il donne le prénom de la personne et il explique tout ce qu'on va pouvoir acquérir avec ces quelques euros, ces quelques dollars. Et donc, quand vous achetez, vous vous retrouvez avec l'intégralité de la vie numérique de Français. À l'époque, c'était 500 000. Et bien là, au moment où je vous parle, je suis en train de surfer dessus. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je viens de tweeter. Hein, comme ça, vous pourrez retrouver les captures écran. Il suffit de rechercher le podcast La French Connection hein, et vous aurez les captures écran donc en question. Et bien là, au moment où je vous parle, j'ai exactement maintenant 622 230 Français vendus à la ligne. C'est complètement fou. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les malveillants, les pirates et le black market ont clairement compris aussi ce que était le big data et comment ils pouvaient le vendre. Alors pourquoi aujourd'hui s'embêter à vendre une base de données complète? Non, autant vendre une ligne d'un Français. Alors ce qui est fou, c'est qu'il y a des sites piratés. Alors je vais faire simple, j'ai regardé au moment où je vous le dis, je vais vous dire exactement combien de sites sont proposés par cette boutique. Alors vous m'entendez cliquer, hein, donc c'est du live. 162 boutiques. Alors dedans, il n'y a pas que des sites piratés, mais il y a aussi énormément de données volées via des phishing, des hameçonnages, hein, les fameux filoutages. Mais du coup, si j'achète le Damien, en tapant en plus son code postal d'une région française, eh bien, je vais pouvoir aussi peut-être avoir accès à ses données bancaires parce que le pirate les aura collectées, ou aussi à ses mails, à son mail. C'est fou. Voilà, donc ça, c'est une première boutique que j'ai pu croiser. Et j'ai vu aussi que, eh bien, il n'y avait pas que des Français visés par ce genre de boutique. Et là, je me suis dit, tiens, est-ce que ça existe aussi pour d'autres pays? Et je suis tombé sur un market qui, lui, vend que des Canadiens. Alors là, c'est très clair et plus dramatique, je trouve encore. Pourquoi? Parce que là, je suis juste devant. Hein. C'est simple, hein. Même si vous voulez, les gars, donnez-moi, par exemple, un code postal. Bon, là, pour tout ce que j'ai devant les yeux, à première vue, BC, si je ne me trompe pas, c'est Colombie-Britannique. Hein. Et bien là, donnez-moi un code postal de Colombie-Britannique si vous en avez une sous la main, là.
Ah, c'est un peu loin de chez nous. J'ai pas des amis qui vivent là-bas, donc j'ai pas de... Chose, mais on va faire tant qu'à faire du live dans les recherches. On va faire une recherche en live aussi, fait qu'on va trouver un code postal là-bas.
Comme ça, on va le faire clairement en temps réel. Hein. Ça sera intéressant de voir. Ah bah la Vince vient de m'en envoyer un sur notre chat. Alors je vais taper V3W6J5. C'est ça, je me trompe pas? Alors je vais le taper. Je vais le faire en même temps que vous. Alors, V3W6J5. Donc, BC, donc ça, c'est l'État, hein, Colombie-Britannique. Et donc, voilà, j'ai pour ce code postal là proposé, j'ai la ville de Surrey, S-U-2-R-E-Y. Et j'ai une certaine... Alors, là, c'est encore plus dramatique. Comme je vous l'expliquais, c'est que là, la boutique me donne carrément le nom, le prénom de famille de la personne. Donc là, pour 2 dollars, je peux avoir l'intégralité de la vie numérique volée à cette personne qui vit donc dans la vie de Surrey, qui est née en 1987, parce que ça, il me le fournit, là, je l'ai devant mes yeux. Et pour 2 dollars, je peux avoir le reste de l'intégralité de sa vie. Alors, je vous cache pas que elle n'est pas intéressante pour moi, cette personne, si j'étais un malveillant, j'entends bien. Hein, parce que pour 2 dollars, je n'ai pas grand-chose. Mais par contre, là, je vois pour 4 et 6 dollars, donc là, je suis par exemple pour la ville de Vancouver, là, j'ai pareil. J'ai le nom et le prénom, donc je ne vais pas le citer ici, hein, mais je l'ai clairement devant les yeux. J'ai son code postal, donc V6B6N6. Je sais qu'il est né en 1984, et plus dramatique, là, on m'indique très clairement que si je paye 4 ou 6 euros, je pourrais avoir carrément accès à ses données bancaires ou à ses mails. Donc voilà, deux boutiques qui, je vais être très honnête avec vous, font partie de cette espèce de constellation de boutiques malveillantes qui se compte aujourd'hui vraiment en centaines. Parce qu'ils font des marques blanches, ils proposent leurs services à d'autres boutiques du black market. Alors, ce qui est fou, c'est que ce que je vous parle là, c'est la première est basée dans le darknet, hein, vous savez, dans cet espace qui n'est pas illégal, mais comme il est chiffré, il n'est pas facilement accessible. Mais la boutique canadienne, là, elle a 2 succursales, dont une qui est sur le web. Donc, ça veut dire que si je vous donnais, par exemple, des informations que j'ai là devant les yeux, je pense qu'on pourrait les retrouver via Google. Donc c'est terrible parce que les gens qui ont été piratés, non seulement elles ont leur identité totalement perdue, leur réputation perdue aussi, et imaginez toutes les usurpations numériques possibles pour 2, 4, 6 ou 10 dollars.
Oui, t'amènes un aspect très intéressant au niveau de toute l'espèce de consolidation de la vie numérique des gens dans un market en question. Maintenant que les grands médias sociaux offrent la capacité de télécharger le contenu de ce qu'ils ont sur nous, donc il serait probablement prévisible de savoir que des gens vont être capables, ou les malfaiteurs vont télécharger nos vies sur Facebook et vont aussi les mettre à vendre sur ce genre de marché-là.
Ouais, c'est complètement fou, parce que là, effectivement, je vois très clairement que certaines des personnes là qui semblent donc piratées, je vois qu'effectivement il y en a certains dont le pirate propose en plus les informations du réseau social sur lequel elles évoluent. Mais à première vue, là je vois compte, il fournit aussi le login et l'identifiant et le mot de passe d'accès au réseau social de la personne en question. Là je vois la petite Millie là, je vois clairement il propose son Twitter, son Insta, son Facebook pour 6 dollars. Imaginez les dégâts qui peuvent être faits. C'est fou. Là, je suis en train de tapoter un petit peu pour voir s'il y en a d'autres. C'est ce big data qu'ils arrivent à se confectionner par du piratage, du vol de bases de données, du social engineering, hein, tout simplement, en faisant un petit tour sur les réseaux sociaux, en posant 2-3 questions, en envoyant des mails et puis piégeant les gens par du phishing, hein, le filoutage. Et puis, ben voilà, après, ben, la vie numérique de ces personnes qui ne prêtent pas attention ne vaut plus que 2, 4, 6 ou 10 dollars.
Ah, mais c'est un, c'est pas très cher, mais ça, c'est vraiment trop facilement accessible. Puis en plus, avec la capacité de tout exporter comme ça, c'est-à-dire que dans peu de temps, si j'ai le compte Facebook d'une personne, je suis capable de télécharger tout son contenu Facebook, puis Vincent a fait l'expérience, puis il va falloir que je fasse l'expérience aussi prochainement, puis même à la limite, comparer qu'est-ce qu'on est capable de télécharger de chacun de ces médias sociaux-là qui colligent des informations sur nous, et de prendre ça, puis de garocher ça dans le dark web, ensuite, ce qui fait qu'on est en train de multiplier l'information qu'on a sur nous, puis c'est de ce que j'ai vu de l'information de Vincent, c'était assez complet.
Ben, c'était pas juste que c'était complet, c'est que on parle d'une base de données avec des champs historiques. Ça veut dire que depuis la création de mon compte, si je me souviens, je pense en 2006, toutes les conversations que j'aurais pu avoir avec la messagerie à l'époque native de Facebook avant qu'ils détachent ça en mode Messenger. J'ai additionné les deux. J'ai l'historique des conversations avec qui ça prend même en charge le CCDI. Peu importe le type de clavier, il n'y a pas de pourcent 20 pour l'espace ou quoi que ce soit. C'est vraiment là une belle représentation. Et puis des photos qui auraient été publiées par erreur, qu'on aurait supprimées par la suite, sont là. J'ai rien de compromettant dans mon cas, là, mais sachez que tout est là, puis Ben, Facebook a été très, en moins de 48 heures, ils ont été très, très collaboratifs pour justement nous donner cette information-là. J'ai fait la même expérience en passant sur LinkedIn. LinkedIn, bon, ben, le format de présentation est un peu plus, je vais dire, binaire. Ils nous garochent ça dans différents fichiers Excel. Puis là, je l'ai fait avec Apple. Apple, ça fait 3 semaines. Ils ont acquiescé, m'ont demandé de l'information supplémentaire, puis j'ai pas de son, pas d'image depuis 3 semaines. Je les trouve un petit peu moins collaboratifs dans leur cas, mais bon. Oui, Nico, t'as raison. C'est pas surprenant. C'est impressionnant, par contre, d'avoir conservé. C'est l'idée de conservation ad vitam aeternam jusqu'à présent, là, qui est un peu. Que je trouve un peu là où est le gros risque.
Ouais, ben c'est ça, c'est qu'ils sont capables de faire revenir une bonne partie de notre historique, puis des choses que peut-être qu'on se rappelle même plus qu'on a mis sur les réseaux sociaux à une autre époque ou à d'autres choses. Puis considérant que beaucoup de gens n'ont pas de filtre sur les réseaux sociaux, fait que ça peut être assez dommageable l'information qu'on peut y retrouver. Même si on a l'impression qu'elle est privée, il s'agit juste qu'un malfaiteur tombe sur notre mot de passe, puis il draine le contenu de notre compte assez vite. Il le met sur le black market ensuite, le fait qu'on a doublement perdu le contrôle parce que Facebook conserve beaucoup trop d'informations. Puis ensuite, cette information, une fois qu'on en a perdu le contrôle, que Facebook en perd le contrôle, c'est fini, c'est perdu son univers, puis on est foutu.
Ben, on l'a vu, la perte de contrôle avec cette entreprise britannique qui a aidé les élections de Trump, comme cette entreprise israélienne qui récupérait les photos pour utiliser son outil biométrique. Et nous, ici en France et en Europe, avec le RGPD, hein, vous savez, le Règlement Général des Données Personnelles, Facebook vient de rappeler aux gens que, en fait, ils suivaient aussi les gens quasiment minute par minute via le GPS. Depuis, il y a une petite option qui vient d'apparaître dans l'administration de Facebook qui permet de d'abord voir partout où Facebook nous traque à la seconde, au centimètre près, et un petit bouton qui permet de tout effacer. Le problème, c'est qu'il aura fallu attendre pas mal d'années pour enfin avoir cette petite option qui permet de tout effacer. Et ça serait très intéressant de voir dans un mois le nombre de personnes qui connaissent véritablement cette option de destruction de ma vie numérique chez Facebook.
C'est comique, par exemple, parce que je sais que l'Europe, en Europe, d'ordre général, votre droit à la vie privée, votre anonymité, ça fait plusieurs grosses firmes qui ont été poursuivies. Que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Suisse, que ce soit la France. Puis là, tu viens nous raconter, il y a enfin un bouton. Il me semble que le message depuis ces poursuites-là, qui datent depuis déjà quelques années, il me semble que ça envoyait un message clair. Un pays qui gagne, par exemple, contre les avocats de Google, OK, wow! Un pays qui gagne contre Microsoft pour faire enlever justement son Internet Explorer de façon native dans l'OS en Europe, wow! Mais je comprends pas pourquoi il faut encore se battre avec le même fondement, en fait, le droit à la vie privée. Enfin, c'est une opinion.
C'est de la guerre, c'est une guerre politique et économique, hein, très clairement. Là, on a effectivement eu les associations et l'Europe qui ont fait interdire Internet Explorer des Windows. Je suis désolé, Internet Explorer est toujours dans Windows. Ensuite, bizarrement, plus personne ne parle de Edge ou de Corona qui sont imposés dans les Windows 10, par exemple. Donc voilà, là, tout le monde maintenant veut taper sur Google, sur Facebook. C'est surtout d'énormes vaches à lait qui peuvent rapporter beaucoup d'argent sous forme d'amendes. Je pense qu'il serait intéressant aussi, c'est d'éduquer les internautes en leur disant qu'il y a d'autres alternatives. Moi, je prends ici, par exemple, en Europe et en France, on parle tous de Google et aujourd'hui, tu prends 10 internautes, 10 vont te dire ils utilisent Google, mais il y a aussi Quant, par exemple, hein, Qwant, qui est un moteur alternatif. Et voilà, je pense qu'il faut aussi éduquer les internautes. Mais en face, on a affaire à des géants qui économiquement sont très puissants, avec des ingénieurs, qu'on le veuille ou non, très doués. Et leurs outils sont phénoménaux. Et donc, s'en passer aujourd'hui, je pense que c'est quasiment impossible.
C'est effectivement très difficile, mais en plus, dans le contexte, au moment où on enregistre, je pense hier ou avant-hier, les États-Unis ont passé une mesure commerciale négative contre l'Europe et le Canada et le Mexique. Ce genre de manœuvre commerciale-là va probablement un peu chatouiller les Européens. et les inciter à mettre des mesures peut-être de représailles, mais peut-être pas nécessairement autant économiques sur des tarifs douaniers, mais maintenant sur des amendes ou des enquêtes plus approfondies sur certains comportements de compagnies ou de géants numériques.
Oui, mais enfin, regarde les Américains. Là, on a sorti le RGPD ici en Europe, où maintenant, même si moi, mes données de français se fuitent aux États-Unis ou au Canada, ça fait partie du RGPD. Et quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'il vient faire Trump avec ses gros sabots, plutôt ses grosses Santiago? Il nous a lancé le Cloud Act. Du coup, toutes les données qui sont aux États-Unis, de moi français ou de toi canadien ou de vous belge, ou voilà, peuvent être maintenant consultées par les autorités américaines. Je pense que ces gens sont en train d'apprendre au monde de se dégoûter du numérique. Hein. Comme ils sont partis là, c'est quand même bien foutu.
Ouais, ça, c'est le film 1984 de George Lucas, mais qui arrive 40 ans plus tard, 50 ans plus tard. Je dirais plutôt THX 1138, excusez-moi.
Ouais, ben ce monde, ben 1984, c'est le livre de Orwell, là, mais qui était dans un monde où même nos télévisions nous regardaient. Là. Fait que c'est quand nos grands-parents s'inquiétaient parce qu'ils s'habillaient beau devant leur télévision parce qu'à part que leur télévision les regardait, mais ça est paru dans un livre. On est proche de cet univers-là où effectivement nos télévisions peuvent nous regarder pour de vrai et effectivement pouvoir s'habiller correctement comme nos grands-parents avaient peur.
Ah ben, à Orwell, on va le revoir au moment où il écrit son bouquin 1984 et on lui dit « Monsieur Orwell, vous savez que nous, dans notre époque, on a une télévision HD 4K avec une intelligence artificielle à l'intérieur à qui, quand je lui parle, me trouve les films qui me plaisent. Mais je suis persuadé que le mec nous regarde dans les yeux, il appelle la médecine pour qu'on nous retrouve avec une camisole à l'hôpital en nous traitant de fous. Je pense que malheureusement, si on leur racontait le dixième de ce qu'on vit aujourd'hui avec la cybersurveillance, mais on serait tous avec une camisole de force à côté d'Orwell qui rigolerait en nous traitant de clown. »
Oui, je suis bien d'accord. Je suis d'accord.
Ben, complètement, mais en même temps, c'est... supposons, parce que le Canada est un petit joueur, mais l'Europe, de façon unifiée, est un plus grand joueur économique. Toutes ces mesures-là ne vont pas inciter à créer des puissances européennes au niveau de l'info nuagique ou tout cet univers-là, ou comme la Chine l'a fait à l'heure actuelle, parce que la Chine est complètement indépendante du restant du monde au niveau des médias sociaux, tous les systèmes numériques sont vraiment dans un univers complètement autonome.
Ah, ça, pour être autonome, ils sont autonomes. Ouais. Mais là, on est en train quand même de transformer un monde ultra ouvert qui était l'Internet en un monde où chacun aura son petit pré carré qu'il ne faudra pas y toucher. Et en fait, du coup, ce monde ouvert où on pouvait parler, rencontrer, découvrir, inventer, créer, est en train de se refermer tout doucement contre lui parce que il a peur du voisin. Et ça, c'est plutôt inquiétant.
Oui, c'est très inquiétant parce qu'on perd de toute façon tout le bénéfice que de ce qu'Internet nous avait apporté lors de la grande révolution au début des années 2000. Mais en même temps, on va se retrouver peut-être avec un monde on avait comme CompuServe, AOL et ainsi de suite dans des environnements ou des jardins fermés dans lesquels on contrôle l'information parce qu'il y a des appétits nationaux qui sont un peu trop grands pour protéger ou fouiner dans les informations. Là. Voilà. Bon, allez, finis de se déprimer. On va passer à la dernière de tes trois nouvelles sur le spécial sur le black market.
Alors justement, là, on parlait des bases de données, des fuites, la cybersurveillance, mais on se rend compte aussi que les meilleures des méthodes pour arrêter un pirate sont souvent les meilleures. Alors je m'explique. Il y a un Français qui est jugé là depuis quelques jours à Miami. Oxymonster, c'était son nom dans le black market. Et il vendait de la drogue, mais aussi il était un intermédiaire entre les dealers et les acheteurs. Hein. Donc voilà, il était l'homme de confiance, en tout cas l'un des hommes de confiance d'un black market très connu. Donc il a été arrêté. Et pourquoi je voulais vous parler de ça, c'est que il n'a pas été arrêté parce que son ordinateur avait été infiltré. Il n'a pas été arrêté par les hommes en noir au-dessus d'un hélicoptère de votre maison. Non, non, le mec avait une immense barbe. Alors, ce n'était pas le Père Noël, hein, mais il était tellement amoureux de sa barbe qu'il participait à des championnats de barbe longue. Les Américains ont trouvé le moyen de le choper. Comment ? Il allait participer au championnat du monde de la plus longue barbe. Le gars part de France. Il prend son petit avion avec son petit ami, il atterrit, la DEA, le FBI, les services secrets lui tombent dessus. Arrestation, il saisit son ordinateur, il ouvre l'ordinateur, il donne son login et son mot de passe et à l'intégralité des informations prouvant sa culpabilité, saute aux yeux dans l'aéroport de ce dealer français. C'est fou. Alors, on est tous en train de parler d'intelligence artificielle, de cyberespionnage. Là, on se rend compte que pour cette affaire, un petit poil dans le rouage et c'est direction la prison. Alors, pour information, il risquait la prison à vie. Son avocat a tenté de faire mettre en place une vis de procédure en se plaignant de cette, on va dire, infiltration de l'ordinateur dans l'aéroport de son client, hein, en expliquant que tout ça, c'était pas bien. Bien sûr, le tribunal, il a dit, pas cause toujours, gaillard. Nous, on ne veut pas savoir, tout ça est totalement légal. Donc, du coup, eh bien, notre dealer a plaidé coupable et donc, il risque plus la prison à vie. Maintenant, il ne risque que, entre parenthèses, 20 ans de prison dans une geôle fédérale américaine. Et autant dire que même si c'est à Miami, ça ne sera pas des vacances.
Ah, puis il a manqué le concours de la barbe la plus longue.
En plus, il a raté. Ah ouais, clairement, il a raté. Alors, il avait une superbe barbe. Hein. J'ai peur en plus qu'il soit obligé de la couper en prison. Je ne suis pas trop sûr de ça, mais toujours est-il que voilà comment il a été arrêté. C'est fou, hein.
Bah, c'est pas la première fois que les autorités américaines utilisent soit des superfuges ou soit utilisent les habitudes des gens pour les amener ou les. Parce que dès qu'on rentre en sol américain, on est foutu. Si on a moindrement des choses qui traînent sur nous, ils vont nous choper, puis c'est fini. Là.
Ben, ce qu'on oublie, c'est que moi, j'ai la chance d'aller très souvent vous voir, les cousins. Et moi, c'est pas la première fois que je vois, par exemple, les autorités américaines réclamer un téléphone portable d'une personne dont ils ont un doute. Et ils regardent les mails, les messages pour s'assurer que la personne qui rentre sur leur territoire n'aura pas pour une seule mission, c'est de s'y implanter pour travailler au noir, par exemple. Pour donc prendre, par exemple, le travail d'un Américain. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils fouillent déjà dans le matériel. Là, par contre, on se rend compte que c'est en train de se généraliser parce que bah, pour eux, c'est le numérique est aussi devenu une aide à la recherche, aux enquêtes, et ça se fait directement et très rapidement, la preuve.
On n'arrête pas le progrès, même si ce n'est pas nécessairement très positif dans ce cas-ci.
Ouais, là, mais bon, là, si c'est pour arrêter des gens qui vendent des produits qui vont tuer d'autres personnes, allez, on veut bien fermer un œil.
Ouais, ben, c'est ça, c'est toujours où la frontière, puis c'est malheureusement, les autorités n'arrêtent pas juste à faire le bien, mais le appétit n'est que finalement sans fin.
C'est ça.
C'est le danger.
Ouais, il est là, effectivement, il est là tout le danger. Hein. Et oui. Ben, je vais finir par ma dernière info de cette quinzaine. Là, c'est aussi montrer le danger donc, de ces fuites de bases de données. Ça s'est passé au Royaume-Uni, hein, en Europe. C'est une usine Jaguar, Jaguar et Rover, hein, vous savez, les voitures de luxe. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu une fuite de données. Un piratage, une fuite de données d'informations qu'on peut considérer comme sensible parce que ça touchait des centaines d'employés de cette usine. Donc, on comprend déjà les problèmes d'identité, de réputation numérique, plus voilà, des informations dédiées à leur emploi. Sauf que le plus dramatique, c'est qu'une fois que les informations ont fuité, certains employés se sont rendus compte de quoi ? Eh bien, qu'ils étaient dans un fichier souligné en rouge qui indiquait que, bah, ils allaient être mis à la porte. Donc là, c'est aussi l'une des conséquences de ces bases de données qui sont créées un petit peu n'importe comment dans toutes les entreprises. Bien sûr, mal protégés, voire pas protégés du tout, et qui sont ensuite mis en pâture eh bien, sur les internets, et des gens s'en rendent compte, et imaginez le drame, imaginez le choc psychologique, déjà de savoir que toute sa vie numérique a été pillée, et donc diffusée sur internet, et en plus de découvrir que son patron, l'entreprise pour qui il travaille, eh bien, a décidé de les virer. C'est terrible.
C'est une drôle, c'est une façon très moche d'apprendre qu'on va perdre un emploi. Là. C'est pas
en France, personne qui a vu ça. Ouais, mais en France, on a eu des cas où des gens étaient prévenus qu'ils étaient mis à la porte par SMS. Hein. Donc le numérique a aussi est aussi un sacré outil pour les gens qui n'ont pas le courage de regarder dans les yeux en expliquant que bah écoutez, malheureusement, on va pas pouvoir continuer.
Oh, j'allais justement dire la même chose que toi, Damien. J'ai lu une histoire semblable une dizaine d'années où à peu près 3000 employés, je pense au Royaume-Uni, ont été invités à ne plus rentrer au bureau parce qu'ils étaient congédiés, sauf s'ils avaient un appel leur disant le contraire. Puis ils avaient tout reçu ça via SMS, effectivement. Ça avait été médiatisé, c'est extrêmement moche comme méthode, mais bon.
Ouais, c'est terrible, hein. C'est vraiment terrible. Hein. C'est voilà, c'est les nouvelles méthodes qui, en plus, sont pour certaines, rentrent dans le cadre de la loi, hein, bien sûr, et des articles de loi du Code du travail chez nous en France, qui permettent certaines méthodes pour remercier, on va dire.
Oh, ouais, c'est une drôle d'utilisation du mot remercier dans ce cas-ci.
Il faut savoir qu'en France, obligatoirement, une personne doit être mise à la porte. Un licenciement économique, voilà, obligatoirement parce qu'on appelle une lettre recommandée avec avis de réception. Donc c'est vraiment normalement cadré, voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et quand on voit ce qui s'est passé au Royaume-Uni par une fuite de données, les gens étaient au courant avant même que les ressources humaines les avertissent. Terrible.
Ouais, c'est terrible, mais y a-t-il des répercussions qui sont associées à ça, soit à travers le RGPD, soit à travers les lois du travail qu'il y a au Royaume-Uni?
Pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus. Tout ça est tellement nouveau que ça, c'est pour ça que ça va être très intéressant de regarder ça dans les prochaines semaines, prochains mois. Et je conseille à nos auditeurs d'avoir la possibilité de nous rejoindre au mois de novembre lors du Hackfest, où on va revenir sur 6 mois de RGPD. Et je pense que là, il y aura des choses assez, très intéressantes à voir.
Ouais, ça va être assez. Ça va changer l'état du monde. Et on va compléter avec la nouvelle de Vincent sur. Un malware préinstallé?
Ben oui, écoutez, petite nouvelle légère pour clore ce podcast. Ben écoutez, bonne nouvelle. Vous pouvez maintenant vous procurer une tablette Android avec Maliciel préinstallé. Donc, pas de souci à ne pas dormir la nuit en vous demandant à quel moment vous allez être justement infecté. Ben écoutez, c'est déjà fait à l'acquisition, c'est est included in the price. Alors écoutez, il y a certaines tablettes Android qui sont setupées justement là, de façon native avec des maliciels, surtout des fameux logiciels avec publicité intempestive, notamment bon des modèles ZTE, c'est, corrigez-moi, est-ce que c'est chinois?
Okay. C'est chinois, c'est même la société que Trump a voulu faire interdire sur le sol américain, et ils sont en train de réfléchir un petit peu parce qu'en fait ils se sont rendus compte qu'ils faisaient travailler énormément d'Américains et de sociétés américaines. Mais oui, ces gens sont, ils sont connus pour ça malheureusement.
Et si je ne me trompe pas, Arcos, qui est français? Est-ce que je me trompe? C'est Arcos?
Oui. Non, c'est bien une société française. Okay. Oui, c'est une française.
Non,
une société
c'était, française pas, c'était pas du sarcasme, qui... c'était tout simplement pour m'en assurer, étant donné que tu es de la région. Écoutez, deux des modèles principaux là, qui sont surtout des. En fait, les modèles infectés, c'est des modèles à faible coût, notamment des fabricants ZTE et Arcos. Bon, au cours des derniers mois, la société, la société a détecté environ 18 000 appareils appartenant aux utilisateurs d'Avast. Ceux-ci ont été trouvés dans plus d'une centaine de pays, y compris les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, la Russie. C'est une application qui est préinstallée en usine. Donc, il y a également un serveur de commande et contrôle qui distribue le logiciel qui a été brièvement retiré en avril. Google a été averti et son Play Store analyse puis désactive présentement les logiciels malveillants qui se propagent justement sur ces nouveaux appareils-là du moment qu'on les installe, qu'on les configure et que... on leur fournit une connexion Internet. Autre fait intéressant, on sait maintenant qu'il y a une dure loi sur la vie privée qui a été mise en application par l'Union européenne. Il s'agit du Règlement général sur la protection des données. Alors, la semaine dernière, il y a eu une conférence canadienne à l'international de l'association Privacy Professionals. Il y avait beaucoup d'intérêt. Donc, malgré le fait que les entreprises auraient dû être prêtes à respecter la date limite de la semaine passée, selon les experts, il n'est pas nécessairement trop tard. Soit votre entreprise doit se conformer à condition que votre entreprise puisse montrer qu'elle prend la conformité au sérieux. Donc, Voilà pour cette petite nouvelle plus légère, en fait, finie avec un coup de poing. Ouais.
Légère, mais Lenovo avait fait ça il y a plusieurs années en arrière aussi. C'est pas la première fois qu'un fabricant chinois essaie de monétiser en nous poussant du hardware sur nos machines de préinstaller.
Oui.
Ben, le problème, c'est que ça a touché en plus du matériel, on va dire, à bas coût. Et donc là, on va être très clair, hein, c'est du matériel que ces sociétés, ces marques vont faire fabriquer en Chine dans des entreprises, qu'on le veuille ou non, plus ou moins troubles. Et donc du coup, elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles récupèrent la coque et tout le logiciel qui va bien, elles mettent leur petite marque et puis elles espèrent que tout ira bien. Le problème, c'est que là, ça commence à faire énormément. Hein. C'est, y a pas si, y a tout, quasiment tous les 3-4 mois, on découvre un nouveau matériel qui... soit, c'est simple, hein, est en train d'intercepter les données des utilisateurs, ou lui impose des publicités, ou alors des comportements qui n'ont strictement rien à faire à la maison. Quoi. C'est vraiment très inquiétant.
Oui, effectivement. Puis, c'est pas discriminatoire, mais les appareils à faible coût, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est les gens à faible moyen qui les achètent, mais ça rend c'est que la part de marché peut être plus grande, justement, parce que tout type de classe sociale qui veut se munir d'un appareil comme celui-là, bien, cet appareil-là devient accessible. Pensons aux enfants. On veut un appareil pas trop cher pour nos enfants. On veut donc qu'ils s'habituent à la technologie, parce qu'ils vont être ils vont être submergés quand ils vont être plus grands. Un appareil pas cher, un appareil infecté, on se doute pas du type de publicité qui vont affecter justement leur développement pendant leur trop-plein d'hormones, qu'on appelle ici la maladie de l'adolescence, je crois. Submergé par toutes sortes de publicités, de merde, puis... mais bon, c'est vraiment un mauvais coup, là, c'est... On trafique l'esprit, en fait. Il y a possibilité de trafiquer l'esprit de certaines personnes, je me comprends. Alors, voilà.
Ah, tout ce qui est inquiétant, c'est que ces applications, en plus, personne ne les contrôle, sauf ceux qui les ont installées. Le problème, c'est que rien n'empêche de penser qu'un État... Et soyons très clairs, la Chine peut très bien manipuler les entreprises de télécommunications dont elle a quasiment tout le temps le monopole en faisant faire d'autres actions aux tablettes, aux téléphones à un moment où elle le déciderait. Donc voilà, c'est inquiétant. Mais on parle de la Chine, mais ça peut être dans tous les cas tout matériel informatique complètement trouble et qui impacte par des logiciels, des jeux préinstallés. On ne sait pas du tout ce que c'est si on ne regarde pas correctement, et encore même en regardant correctement, on n'est pas sûr de leur capacité de malveillance.
Yep, effectivement.
Bon, ça complète nos nouvelles peut-être un peu moins joyeuses cette semaine.
Punaise!
c'est pas... en tout cas, le monde de la sécurité est un monde surprenant dans lequel on n'a pas fini d'en parler, et dont le RGPD va nous alimenter énormément dans les prochains mois. Puis les malversations étatiques vont aussi alimenter les réflexions et les discussions.
Alors, on va attendre, c'est la Coupe du monde de foot, hein? La Coupe du monde de football. On va voir ce qu'on va apprendre, ce qu'on saura beaucoup plus tard ou ce qu'on ne saura jamais.
On va tout finir par se savoir. Mais sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine, messieurs.
Oui.
Bonne semaine et bon soleil à tous. Eh, vous avez vu, de l'espoir, du soleil, du ciel bleu.
Bonne semaine!